Nous prenons nos Bibles dans 2 Rois au chapitre 5. 2 Rois au chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, mon Seigneur, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va et rends-toi à Samarie. Je t'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. » Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs approchèrent pour lui parler et ils lui dirent, « Mon père, si le prophète eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors, combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Voilà ce que la Bible nous dit. La Bible nous parle d'un homme qui était fort et qui était le chef d'une grande armée. Et cet homme a fait ses preuves, mais cet homme avait un problème, c'est qu'il était lépreux. Et la seule issue pour les lépreux à cette époque, c'était la mort, donc c'était des personnes qu'on isolait et on n'attendait plus, on comptait les jours. Et tout ce qu'il attendait, cet homme, c'était la mort. Mais lorsqu'on lit, on voit qu'en réalité, il y avait une solution à son problème. Mais cet homme n'était pas au courant. Alors nous lisons au verset 2, ce qui est écrit. « Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Cet homme avait un problème qui le menait à la mort, mais il y avait une solution pour lui. Et cet homme n'était pas au courant de la solution. Alors la fille qui avait été emmenée captive dit à sa maîtresse, « Si le roi allait vers les prophètes de l'Éternel, le Dieu d'Israël, ce Dieu-là peut le guérir. » Il y a des situations que nous traversons, il y a des épreuves que nous connaissons, on a l'impression que tout est bloqué. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, la solution, elle est auprès de lui. Naaman manquait quelque chose, il lui manquait l'information. Il lui manquait la bonne information. Je vais donner un exemple, nous sommes en France. Aujourd'hui en France, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour aider les associations, pour aider les entrepreneurs. Donc aujourd'hui, si je veux être entrepreneur, faire mon entreprise, créer mon entreprise, il va falloir que je me renseigne sur toutes les aides possibles, les subventions que l'État peut donner pour m'aider à commencer mon activité. Si je suis une association, il va falloir que je me renseigne auprès de l'État. Alors, il y a des personnes qui se lancent dans des choses sans information. Et bien, parfois, ils rencontrent des difficultés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait le travail en amont, ils n'ont pas fait une prospection, ils n'ont pas fait une étude de marché, ils ne sont pas partis se renseigner. Alors, ils peuvent commencer l'activité et se heurter à des difficultés, alors que les choses auraient été plus simples si on avait la bonne information au départ. Aujourd'hui même, c'est comme on parlait avec une personne pour notre fille qui faisait la piscine, et la personne qui connaît bien les rouages de l'administration qui nous dit « Oui, vous avez droit à telle aide au niveau de la CAF pour l'activité. » Vous avez... Donc ce sont des petites choses, l'État ne viendra pas te le dire. Mais c'est toi, en te renseignant, tu peux « Ah, je ne savais pas que j'avais droit à ceci. Je ne savais pas que je pouvais prétendre à telle aide. Je ne savais pas. » Et beaucoup vivent sans avoir la bonne information. Et la bonne information, c'est que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est le véritable. Quand je dis cela, ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas. Ils connaissent. Mais qu'est-ce qu'ils font de cette information-là? Sûrement que Naaman a entendu parler du Dieu d'Israël. Il a sûrement, mais c'était peut-être loin de sa tête. Il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec ce Dieu-là? Moi, un chef de l'armée. Mais il est arrivé une situation. Dieu a mis une fille pour le rappeler, pour lui dire, voilà l'information que je te donne. Il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un Dieu qui est véritable. Va vers ce Dieu-là et en lui, tu auras la guérison. Nous lisons Jean au chapitre 4. Jean 4. Donc nous pouvons commencer à partir du verset 1er. Le Seigneur fut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils, à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Voilà, Jésus rencontre cette femme et il demande à boire à la femme. La femme lui dit, mais nous sommes samaritains. Vous, vous êtes juifs. Les samaritains étaient considérés comme impurs parce qu'ils s'étaient mélangés à des païens. Et ils étaient rejetés par les juifs, par les pharisiens. Et cette femme lui dit, mais toi, tu es juif, moi je suis samaritaine, en plus une femme, tu me demandes à boire. Jésus dit à cette femme, il dit, femme, si tu connaissais le don de quel est le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, Jésus lui dit, si tu avais l'information, la bonne information de qui je suis, en réalité c'est toi qui te serais précipité pour me demander à boire. Notre réflexion aujourd'hui, c'est, avons-nous la bonne information? As-tu la bonne information? La bonne information, c'est que Jésus est Seigneur. Jésus est le Fils de Dieu. C'est cela. Cela suffit. De le savoir, ça suffit. Beaucoup vivent la tête courbée. L'épreuve arrive. La maladie vient. On est déstabilisé. Et là, le diable en profite pour te dire, mais voilà, où est ton Dieu? On se rappelle dans Matthieu 4, la tentation dans le désert où le diable vient pour tenter Jésus, pour lui dire, mais si tu es le Fils de Dieu, regarde, tu as faim maintenant. Transforme ces pierres en pain et mange, parce que tu es le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Et le diable va vouloir faire la même chose pour qu'on prouve. Je me rappelle une prédication qu'on a eue ici. Il est écrit, c'est ça, avoir la bonne information. C'est qu'il est écrit, ça suffit. Jésus a dit non. Ce n'est pas le pain, ce n'est pas cette nourriture physique qui va nourrir l'homme. Elle va nourrir, mais ça va s'arrêter à un moment. Mais c'est la nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit. Voilà la bonne information. Et c'est ça le combat que nous aurons à mener toute notre vie sur la terre en tant que chrétiens. Il y aura toujours ce problème. Il y aura toujours ce défi que le diable va lancer dans nos raisonnements, dans nos pensées pour nous dire, regarde, tu es chrétien, mais regarde ta situation. Jésus dit à la femme, il dit, femme, si tu connaissais, si tu avais l'information, la bonne information de qui je suis, alors tu comprendrais. Alors ta vie va changer. Et plus loin, Jésus parle à cette femme. Il dit, va me chercher ton mari. La femme lui dit, je n'en ai pas. Il dit, oui, tu as dit vrai. Tu as dit vrai. Beaucoup vivent quand on cherche à vivre par nous-mêmes, quand on cherche à vivre par notre force. Parfois, lorsque on veut négliger la parole de Dieu, on va voir ça plus tard. Eh bien, on vit les conséquences de cela. Il est écrit dans Osée 4, 6, mon peuple périt par manque de connaissances. Mais il rajoute, ce même peuple a aussi rejeté la connaissance. C'est cela. Comme on a dit tout à l'heure, lorsqu'on n'a pas l'information, parfois on avance. Il y a ce verset qui dit que le peuple sans les révélations marche sans frein. Il ne sait pas où il va, puisqu'il n'a pas l'information. Puisqu'il ne sait pas qui est Dieu, de quoi Dieu est capable. Alors il se limite à ce qu'il voit, tout simplement. Et parfois les chrétiens, nous vivons comme si nous ne connaissons pas notre Dieu. Alors l'exhortation d'aujourd'hui, moi le premier, le Seigneur nous rappelle, il nous dit, je suis l'Éternel, le Dieu vivant. Je suis le Dieu qui sauve. Je suis le Dieu qui accomplit ma parole, qui accomplit toutes choses. Et de le savoir, pour nous ça suffit. de savoir que notre Dieu est grand, de savoir que notre Dieu est tout-puissant, comme ce chant dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Que Jésus m'aime au bonheur suprême. Ça suffit de le savoir. Et Dieu veut que nous puissions prendre conscience de cela. Que la Bible, la parole de Dieu, est la bonne nouvelle, et l'information par excellence. C'est celle-là. Lorsque nous écoutons les informations, on allume la télévision. Il y a toujours mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Et lorsqu'on suit les chaînes de médias, on a l'impression que c'est à qui donnera l'information la plus difficile, la plus mauvaise, qui aura plus d'audimat. Alors lorsqu'il y a des catastrophes, on dépêche des reporters sans frontières, on dépêche des gens pour être plus près de l'information. Et depuis tout, quelques années, c'est toujours de mauvaises nouvelles. Enlèvement, crash, ceci, cela, c'est ça, les informations que ce monde nous donne. Mais nous, nous avons l'information par excellence, la bonne information. Naaman est passé à côté de cela. Et il a failli mourir à cause de cela. Mais Dieu est fidèle. Dieu a mis quelqu'un à ses côtés pour lui rappeler, pour lui dire, non, tu ne peux pas rester comme ça. Comment peux-tu rester comme ça alors qu'il y a une solution? Il y a le Dieu d'Israël qui est là, qui est vivant. Alors pourquoi rester dans cet état? 1 Samuel 17. On peut commencer à partir du verset 12. 1 Samuel 17, 12. Nous allons voir des exemples de bien-aimés, de nos frères, de nos prédécesseurs qui ont compris qui était Dieu et quelles que soient les situations qu'ils ont pu rencontrer, ils ont gardé foi en Dieu. Or, David, verset 12, était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab, le troisième Shamma. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Matin et soir, pendant 40 jours, il se présentait. Isaïe disait à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grain rôti et ses 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinthe faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu Et as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. » Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion, l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un de ceux, l'un d'eux, car il a insulté la main du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa jupissière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approchait peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi, pour que tu viennes à moi avec ces bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. J'abattrai et je couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Amen. C'était un peu long, mais c'est pour comprendre. Alors, il nous est dit que Israël et les Philistins étaient en guerre. Et les Philistins avaient un homme du premier rang qui était Goliath, un homme grand, imposant et fort. Et il est écrit que pendant 40 jours, jour et nuit, il avançait. Et quand il avançait, Israël reculait, ils étaient dans la peur. Et David a entendu cela lorsqu'il vient pour prendre les nouvelles de ses frères. Et il entend qu'un étranger, un incirconcis insulte le Dieu d'Israël. Il se dit, mais ce n'est pas possible. Il se dit, là, cet homme, il n'a plus seulement affaire à Israël, mais il a affaire au Dieu d'Israël. Il dit, puisqu'il vient se comporter comme ça, alors le Dieu d'Israël va lui montrer que c'est lui qui est le véritable Dieu. David avait l'information, la véritable. Il savait que son Dieu était le véritable. Et il y a parfois des situations, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont comme Saül dans notre vie, qui sont comme des montagnes. Alors il y a deux possibilités. Il y en a qui, comme le peuple d'Israël, va se voiler la face, va fuir. Mais il y en a d'autres qui vont dire non, je refuse. Lorsqu'on a la bonne information, on refuse la résignation. Lorsqu'on connaît son Dieu, comme il est écrit dans Daniel 11, 32, « Ceux du peuple qu'ils connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. » Ils restent fermes, ils sont confiants, parce qu'ils savent le Dieu qu'ils servent, ils le connaissent. C'est cela. Et David n'a pas tremblé devant cet homme. Alors la question, lorsque nous tremblons, est-ce que nous connaissons Dieu? Est-ce que nous avons la foi en notre Dieu? Est-ce que nous avons la foi en ce que nous entendons? Est-ce que nous avons la foi en ce que le médecin t'a dit? Ou est-ce que nous avons la foi en notre Dieu qui est tout-puissant? Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors l'exhortation d'aujourd'hui, c'est que nous puissions méditer la parole. Que nous puissions lire la parole. Jésus dit, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous rappellera des choses que je vous ai enseignées, que je vous ai dites. Mais si on ne lit pas la parole, si on ne médite pas la parole, si on ne connaît pas la parole, il y a des gens, comme parfois, je discute avec des personnes, qui me disent, il est écrit, ou on m'a dit, la personne ne sait même pas si c'est un verset biblique ou pas. Il a entendu ça sur Internet, il a entendu quelqu'un. Non! Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu, non pas sur des théories humaines. Que dit la Bible? Quand c'est quelque chose que tu as lu, eh bien, tu es sûr de ça. Mais quand c'est approximatif, tu ne sais pas, voilà, tu tâtonnes. David savait. Et il parle au roi Saül, il dit, non, ce n'est pas un problème. Il dit, j'ai eu affaire à un lion, j'ai eu affaire à un ours. Mais je protégeais le troupeau de l'Éternel. J'ai protégé les brebis. Et il dit, il en sera de même avec le peuple d'Israël. Mais David connaissait son Dieu. C'est cela. On se rappelle les amis de Daniel qui ont eu affaire à ce roi Nabucodonosor. Il dit, il y a deux choses. Soit vous reniez votre Dieu, vous vivez. Soit vous continuez à croire en ce Dieu-là et je vous tue tout de suite. Ces hommes ont dit, oh roi, on n'a pas à te répondre là-dessus. Il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de polémique pour savoir est-ce que Dieu est le plus fort et le plus grand. Il dit non, il n'y a pas de polémique là-dessus. La situation est ce qu'elle est, mais nous, malgré la situation, nous croyons que notre Dieu est tout-puissant. Et puisqu'il est tout-puissant, il peut nous délivrer de cette situation. Mais même s'il arrive qu'il ne nous délivre pas, notre Dieu a déjà fait ses preuves. Alors nous restons sur cette information-là. Nous restons sur cette réalité que notre Dieu est le plus fort. Amen. C'est cela la vérité. Alors le Seigneur nous exhorte aujourd'hui à réaliser, à ouvrir les yeux comme l'apôtre Paul dit. Il dit, je prie pour que Dieu illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre qu'en nous, nous avons Jésus. Et Jésus a tout accompli. La même puissance qui a ramené Jésus de la mort à la vie, c'est la même puissance qui agit en nous. Alors lorsque nous savons cela, certes, on peut traverser des situations difficiles, mais on sait que la puissance de la résurrection, comme elle a déjà agi en Jésus, elle va agir aussi en nous. Amen. C'est cela. Cela nous suffit. Cela nous suffit. David était un enfant. Peut-être qu'il y a des choses qu'il n'avait pas forcément compris de la vie, de l'expérience de la vie. Mais ce qu'il savait, c'est que son Dieu était avec lui. Et qu'il aimait son Dieu, cela suffisait. Ça suffit. Et quand on sait cela, lorsque Goliath se présente, lorsque la situation se présente, on reste calme. On fait confiance à notre Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Lorsqu'on ne connaît pas son Dieu, on titube. Lorsqu'on ne connaît pas Jésus, on a une discussion avec les musulmans, eh ben, on est déstabilisé, on ne sait pas. Non. Quand on connaît son Dieu, même si on n'a pas tout compris, mais on a compris l'essentiel, c'est que Jésus est Seigneur. Amen. C'est l'essentiel. C'est que Jésus a vaincu la mort. C'est l'essentiel. C'est que l'Éternel a créé toutes choses. C'est l'essentiel. On va te dire, prouve ceci. Non. Il est écrit, ça suffit. Le diable a voulu faire prouver à Jésus. Il est écrit, ça prouve. Non. Jésus est resté dans la parole. Et le Seigneur veut que nous puissions rester aussi comme ça. Que nous puissions avoir foi dans sa parole. Que nous puissions faire confiance. Même si nous ne voyons pas, mais nous croyons que ce qui est écrit est vrai. Amen. Nous lisons Luc au chapitre 7. Luc 7. À partir du verset 1er. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instante supplication, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation » et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison que le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri, car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Voilà l'exemple de cet homme qui a entendu parler de Jésus. Peut-être qu'il n'a pas entendu tous les enseignements de Jésus, tout ce que Jésus a prêché. Mais lui, ce qu'il a gardé en lui, c'est que Jésus, même à distance, il peut guérir. Il fait des miracles. Jésus, le Fils de Dieu. C'est tout ce qu'il a retenu de Jésus. Alors les gens viennent voir le Seigneur pour lui dire, « Maître, cet homme mérite que tu lui fasses du bien. Regarde ce qu'il a fait pour nous, les Juifs. Il a bâti, il a construit la synagogue. Il nous a fait du bien. » Et lorsque Jésus se déplace pour aller vers chez lui, l'homme arrête Jésus. Il dit, « Non, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Je suis étranger. Et en tant qu'étranger, toi, venir chez moi, ça serait mal vu. Mais je sais une chose, c'est que moi qui suis un officier, lorsque je donne un ordre, l'ordre est exécuté. Voilà. Je donne l'ordre, je ne me pose pas la question de savoir, mais qui, comment, non, je donne l'ordre. Et j'attends le rapport après. Il dit, toi aussi, tu peux faire de même. Et Jésus regarde cet homme, il se dit, ah. Il se retourne, il est écrit, il se retourne. Jésus, verset 9, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, se retournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La foi, c'est faire confiance à Dieu. C'est croire, comme il est écrit dans Hébreu, qu'il a créé toutes choses. Qu'il a créé le ciel, qu'il a créé la terre, les mers, les profondeurs. Et si ce Dieu qui a créé toutes choses est mon Père, c'est lui qui a créé le soleil. Si ce Dieu-là a pu créer toutes ces choses, alors qu'est-ce que mon problème devant lui? Qu'est-ce que ma maladie devant lui? Qu'est-ce que la mauvaise nouvelle devant ce Dieu-là. Qu'est-ce que tout ça? Et cet homme a eu l'information, il a gardé pour lui, il est allé voir Jésus en disant, non, moi ce que je sais, c'est que moi je suis étranger, je suis pécheur. Donc tu n'as pas à te déplacer. Avec une seule parole, mon serviteur qui est malade sera guéri. Et Jésus a admiré cet homme. Et le Seigneur veut aussi que nous puissions le considérer comme cet homme, ce centenier romain. Que nous puissions réaliser, être fermes sur l'information que nous avons de qui est Jésus. Ça suffit. Ça suffit. Lorsqu'on connaît le Seigneur, on est stable. Lorsqu'on connaît le Seigneur, on reste ferme sur nos positions. On croit qu'il nous guidera. Et lorsqu'on se trompe, on dit « Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis trompé. » Mais on lui fait confiance. Amen. C'est cela. Et cet homme a compris. On se rappelle de Jean 9, l'aveugle né. Lorsqu'il a été guéri, il va crier sa joie. Les pharisiens arrêtent cet homme pour lui dire « Mais est-ce toi qui étais aveugle ?» Il dit « Mais vous me voyez ?» Il dit « Mais qu'est-ce que tu dis de cet homme qui t'a guéri ?» Il dit « Moi, je sais une chose. Ce que la loi dit, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Moi, c'est la réalité. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Jugez-vous-même. Voilà. Voilà. » Donc l'homme a parlé de son cœur. Il a témoigné de ce qu'il a vécu de Jésus. L'information qu'il a vue, qu'il a eue, le témoignage de sa vie, il est allé simplement pour dire, ben voilà. Maintenant, dites ce que vous voulez. Moi, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Donc cet homme, Jésus, est le Fils de Dieu. C'est le Messie d'Israël. C'est cela. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous puissions avoir cette assurance. Que nous puissions avoir cette détermination-là. Lorsque les épreuves se présentent, on confesse le nom de Jésus. Et ce qui peut nous aider, c'est voir notre vie ancienne, ce que nous étions, ce que Jésus a fait pour nous. C'est ça qui va nous donner la force de témoigner, comme cet homme-là aussi, aveugle. Il a dit, mais mon témoignage parle lui-même. Il parle lui-même de Jésus. Il y en a qui disent, le Seigneur ne fait rien pour moi. Les autres vivent des miracles, les autres sont bénis, les autres ceci, les autres. Non, c'est parce qu'on regarde les autres. Mais quand on regarde à soi-même et qu'on est sincère et honnête, Dieu a fait des choses dans nos vies. Quand on est sincère, ne serait-ce que la conversion, c'est le plus grand miracle. Et lorsqu'on pense à ça, on se dit non, si Dieu a pu me transformer, moi qui étais ceci, cela, alors il peut aussi transformer ma situation. Puisqu'il ne change pas. Jésus-Christ est le même. Hébreux 13, 8, hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'homme dit à Jésus, moi j'ai une information, voilà. C'est que toi, tu es le Fils de Dieu, que tu peux agir. Que tu peux changer la situation de mon serviteur qui est mourant. Matthieu 15. Matthieu chapitre 15. Verset 21. Jésus étant parti de là, se retourna dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, Mais les petits chiens, ils mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. À l'heure même, sa fille fut guérie. Cette femme vient voir Jésus en disant, « Maître, fils de David, Seigneur, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Jésus ne répond pas, les disciples disent, « Mais maître, renvoie-la seulement, elle dérange. » La femme insiste, « Aie pitié de moi, Seigneur. » Jésus lui donne cette réponse, il dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voilà la parole de Dieu. Cette femme est venue. Au fond d'elle, elle savait qui était Jésus. Au fond d'elle, elle savait de quoi Jésus était capable. Au fond d'elle, elle savait que Dieu est amour. Et cet amour de Dieu s'est manifesté en la personne de Jésus, qui n'a fait que du bien. Alors lorsqu'elle vient voir Jésus se prosterner, donc dans son cœur, elle se dit, comme il est bon, ben, il ne peut que me faire du bien. Moi, je sais dans mon cœur qu'il est bon. Et en plus, on donne un détail, elle appelle Jésus Seigneur, fils de David. Donc cette femme sait que Jésus est le Messie d'Israël, l'envoyé de Dieu. Donc elle n'a aucune hésitation là-dessus, elle vient avec certitude. Elle dit, Seigneur, fais quelque chose, aie pitié. Et le Seigneur veut que nous puissions réaliser cela. Que nous puissions réaliser comme cette femme, comme le centenier, que Jésus est le Fils de Dieu. Que nous puissions réaliser que cette information est la meilleure. Alors lorsque nous négligeons la parole de Dieu, comme on a dit, la parole de Dieu, c'est la révélation par excellence. C'est d'elle que nous tirons la foi, que nous avons la foi. Et quand on néglige cela, on se retrouve dans des problèmes. Parfois, on dit, Dieu m'a abandonné. On se dit, mais je ne comprends pas. On se rappelle Luc 24, les disciples d'Emmaüs, qui rentrent, qui rebroussent chemin vers leur village. Et là, ils sont tristes, ils se disent, on pensait que c'était lui qui allait délivrer Israël. On pensait que c'était lui qui était l'envoyé de Dieu. Ces hommes ont entendu Jésus parler pourtant. Ils ont entendu. Mais tout ce que Jésus avait dit, ils ont mis ça de côté. Sûrement dirigés par leur convoitise, par leur chair, de vouloir voir les choses changer selon eux. Mais le plan de Dieu était différent. Et lorsque Jésus commence à leur parler, il est écrit, il prend les psaumes, il prend les livres de Moïse, il prend toutes ces choses. Il explique que tout cela parle de lui, qu'il devait souffrir. Et là, les regards de ces hommes changent. Ils se disent, mais oui, notre cœur était dans la joie, bouillissait au fond de nous lorsqu'il parlait. Tout ça pour dire, lorsque on néglige la parole de Dieu, lorsqu'on néglige la Bible, on va vers la mort. Si notre vie n'est que tristesse aujourd'hui, tristesse demain, tristesse aujourd'hui, tristesse demain, posons-nous la question. Ai-je négligé la parole de Dieu? Pourtant, Jésus avait donné toutes les informations à l'avance. Il avait parlé de tout ce qui allait arriver. Comme le message qu'on nous a partagé une fois, un matin, c'est-à-dire Dieu nous donne les événements à l'avance pour que quand ces événements arrivent, qu'on soit déjà préparé à les affronter. On sait qu'il y aura la persécution. On sait qu'il y aura, quand on devient converti, on se convertit. Parfois dans la famille, il y aura des tensions, non pas liées simplement à nous-mêmes, mais parce que On change de nature. On n'a plus les mêmes intérêts. On n'a plus les mêmes façons de voir les choses. Et lorsqu'on est au courant de ces choses à l'avance, eh ben, on est préparé. Ainsi, lorsque ces choses arrivent, eh ben, on se dit, voilà, le Seigneur l'avait dit. Et la parole de Dieu s'accomplit. Mais lorsqu'on néglige cela, on prend ce qui nous intéresse. Lorsqu'arrivent les problèmes, on est déstabilisé. On est comme les disciples d'Emmaüs. Alors aujourd'hui, si nous sommes tristes, regardons en nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu le problème, c'est nous le problème. Et les disciples d'Emmaüs ont compris cela. Ils ont négligé. Pourtant, Jésus avait donné toutes les informations. Il a dit « Je suis le Christ ». En plus, c'est après la révélation que Pierre donne de qui il est. Il dit « Tu es le Fils de Dieu ». Et c'est là qu'il parle de sa mort et de sa résurrection. Mais ils ont négligé cela. Et ne soyons pas comme ces hommes. Soyons comme David, qui connaissait son Dieu. Il y a beaucoup d'exemples. Soyons comme le centenier romain, qui avait la certitude de ce que Jésus était, qui savait ce que, qui sait qui est Jésus. Comme la femme syrophénicienne, cananéenne, qui est venue, qui n'a pas tout compris, mais qui a compris que Jésus était suffisamment puissant pour agir et délivrer sa fille. C'est cela. Alors le Seigneur nous exhorte aujourd'hui à réaliser cela. As-tu la bonne information? Qui est Jésus pour toi? Et si tu as cette information, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? C'est tout. Il est écrit, si tu crois dans ton cœur, oui. Et si tu confesses aussi de ta bouche. C'est cela. Et confesser de sa bouche, ce n'est pas le dire tout simplement. C'est le vivre aussi. Je sais que Jésus est Seigneur. Je sais que l'Éternel est Dieu. Et je le vis aussi dans ma vie de tous les jours. Puisque j'ai l'information. Aujourd'hui, lorsque on est dans son droit, on va dans des administrations. Et qu'on est dans son droit, on vient avec assurance. Parfois, le personnel administratif va vouloir te compliquer. Mais toi, tu es dans ton droit. Tu es calme. Même s'il te prend 30, 40, 50 minutes devant son comptoir, toi, tu es calme parce que tu es dans ton droit. Tu attends que les choses se fassent, c'est tout. Mais quand tu n'es pas en ordre, ah oui, là, il y a un problème. Mais le Seigneur veut que nous puissions réaliser qui il est. Que nous ne puissions pas passer à côté, comme Naaman qui a failli passer à côté, alors que la solution était là. La solution était tout près de lui. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous parle. Moi, le premier, à réaliser qui il est, comme il a dit à cette femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et le Seigneur a des choses à nous donner, le Seigneur a des choses à faire dans nos vies, mais il veut que nous puissions lui faire confiance, croire en lui, croire en sa parole, croire malgré les circonstances. Le diable va te faire croire en te disant, mais tu as péché, tu n'es pas digne de Dieu. Oui, mais il est écrit que Jésus-Christ a pris nos péchés à la croix pour moi. Donc à cause de Jésus, même si j'ai péché, je confesse mon péché et je me remets entre les mains du Seigneur en disant, Seigneur, voici, prends-moi tel que je suis. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton esprit, Seigneur, qui agit en nous et qui nous rappelle, Seigneur, que de te connaître, Seigneur, c'est la vie, Seigneur. Et Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à réaliser qui tu es, Seigneur. C'est vrai que la vie sur la terre est difficile, Seigneur, tout seul, avec les épreuves, avec les maladies, les mauvaises nouvelles, avec le terrorisme, avec tout ce qui se fait si bas, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons réaliser aujourd'hui que tu es le Dieu vivant. Tu es le Tout-Puissant. que tu as envoyé ton fils à la croix. Et il a dit, tout est accompli. C'est ça l'information que nous retenons, Seigneur. Tu as tout accompli à la croix. Tu as dit, Jésus, n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Et Seigneur, c'est ça que nous voulons garder, Seigneur. Tu as dit, quiconque croit en toi vivra même s'il meurt. Tu as dit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Voilà, Seigneur, les paroles que nous voulons garder dans nos cœurs. Même si, Seigneur, il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, Seigneur. Mais nous voulons garder l'essentiel, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, merci d'avoir tout accompli à la croix. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et ta grâce. Merci de continuer ton œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.